BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, président du Cercle des économistes. Alors, je vais le repréciser, mais vous, même si vous avez un abonnement sur l'antenne, enfin, comme le Cercle des économistes, vous avez combien d'économistes autour de vous ? 34 même. C'est dire, vous avez vu les perspectives de la Banque de France, l'OCDE, Bercy. On est tous, pour la France, hein, j'entends, autour de moins 11%. Est-ce que c'est noir ? Est-ce que c'est pas trop noir ? Lorsqu'on voit qu'il y a quand même une reprise d'activité en ce moment.
Deux remarques. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait au fond deux points de vue qui sont les uns et les autres respectables. Il y a un peu ce que j'appelle l'économie vaudou, mais la vision très optimiste, parce que c'est vrai que ça redémarre.
Comment va ?
Mais ça redémarre par rapport à une situation qui est, vous avez entendu les chiffres tout à l'heure, moins 20%, moins 30%. Donc c'est pas ça qui fait le retour à la normale. Et puis il y a la réalité d'une logique macroéconomique que développe très bien la Banque de France, qu'il faut redévelopper de manière très simple. D'abord, il y a un chômage qui a déjà démarré, une accélération, 200 000 en vrai pour les deux mois qui se sont écoulés de confinement, vraisemblablement 200 000 de plus dans les semaines qui viennent. Et ça crée ça deux phénomènes. Le premier, c'est que baisse en réalité le pouvoir d'achat global de la société française. Mais surtout, ça crée un climat qui est un climat de, j'allais dire, d'anxiété, qui est normal et qui développe à ce moment-là une épargne de précaution. Donc on dit, c'est formidable, il y a beaucoup d'épargne, mais cette épargne ne va pas se consommer de manière aussi forte que l'on l'imagine, parce que les gens ont peur pour leur emploi. Rajoutez-y le fait, toujours dans la prévision de la Banque de France, qu'arrive toute une classe de jeunes, 500 000, 600 000, 700 000, et on voit bien que les entreprises, soit même celles qui ont traversé cette période, ne vont pas se mettre à réembaucher de manière massive. Donc les prévisions, le scénario central de la Banque de France est un scénario très réaliste et qui conduit à ce que, en réalité, on met, on va dire, près de 2 ans à revenir au niveau qui était celui de décembre 2019. Ce qui signifie 2 ans difficiles. On peut le traiter plus ou moins bien pour les gens. On peut faire de la formation. Il y a des tas de propositions qui sont faites, qui sont de bonne qualité. Le gouvernement s'est bien débrouillé jusqu'à maintenant. Mais la réalité, c'est qu'il faut arrêter de se dire qu'on va repartir en V, parce que ça n'est pas vrai.
D'accord. Mais en même temps, lorsqu'on regarde prévision 2021, hein, cette fois-ci la Banque de France, on est à près de 7%. Donc il y a quand même une 2021, hein, on est d'accord. Mais donc ça veut dire que ça va remonter après le premier semestre 2021.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Pour revenir, puisqu'au fond, leur prévision
consiste... Et le CDE est à plus 7,7%.
Voilà. Mais 7,7% par rapport à une base, tout dépend toujours de la base dont on part.
Ouais.
Alors, il se trouve que la base est baisse. Aujourd'hui, on dit, c'est très bien, moi je suis un optimiste tempérament, mais simplement, il faut être lucide. On dit, ça redémarre. Bien sûr que ça redémarre. Mais ça redémarre d'abord avec des secteurs qui sont quand même très importants. Vous venez d'évoquer l'aéronautique et évidemment tout le transport, toute une série de sujets qui sont difficiles. Et puis, ça redémarre par rapport à une situation qui était très faible.
Donc, alors, vous ne présidez pas le conseil scientifique, Jean-Hervé Lorenzi, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit dans les prévisions de l'OCDE, mais aussi de la Banque de France, scénario avec la crise qu'on vient de traverser, scénario comme une petite musique un peu désagréable qui est en train de résonner, avec une reprise du Covid, de l'épidémie, à la rentrée en septembre. Vous y croyez ? Est-ce qu'effectivement, c'est peut-être l'hypothèse la pire, hein, pour l'économie ?
Oui,
parce que là, on est dans des chiffres.
Là, on serait dans des chiffres
de moins 20% pour le coup.
Horrible. D'après ce qu'on entend, évidemment, je suis absolument incompétent, mais ce qu'on entend, c'est l'idée que il puisse, d'abord, ça puisse arriver, mettons qu'il y ait une probabilité de 15%, 10%, mais surtout, c'est dans nos têtes que les choses se passent. Et là, c'est pour ça que le scénario central et de l'OCDE et de la Banque de France sont assez justes. Nous n'allons pas quitter ce monde qui nous a paniqué comme ça en 2 coups de cuillère à peau. C'est pas parce que les gens mettent moins de masques que ceci. Ça demeure. C'est le simple fait qu'on évoque la probabilité qui n'est pas nul d'avoir une reprise, fait que les gens dits fragiles sont peureux. Et je rappelle que, pour que les gens aient bien ça en tête, 60% de l'épargne financière de notre pays est entre les mains des plus de 60 ans, c'est-à-dire les gens fragiles. Donc il faut toujours être lucide. On est dans une situation qui est une situation compliquée, dont on ne va pas se ressortir par 2 coups de cuillère à peau. C'est plus difficile que ce que on dit parfois. Voilà.
Juste un point. Est-ce que vous pensez qu'il y a... C'est un peu une musique récurrente, là encore. il y a une sorte de sacrifice générationnel qui a été fait, c'est-à-dire que pour préserver les plus de 60 ans, on a confiné tout le monde, alors qu'à la limite, il aurait suffi de confiner les gens les plus fragiles au-delà de 65 ans, et puis de laisser les autres travailler avec des précautions.
C'est le temps que vous employez qui me convient pas. C'est plutôt maintenant que ça va se passer. Je trouve qu'on a un risque majeur de sacrifice générationnel, tout simplement parce qu'au fond, la société française est toujours la même. Il y a les insiders, ceux qui ont un emploi, etc. Ouais. Et ceux-là sont quand même relativement protégés. Et puis, il y a tous ceux qui arrivent, par exemple, sur le marché du travail, ce sera, ou qui sont dans des situations précaires, ce sont les indépendants, les CDD, tout ça, plus tous les jeunes qui arrivent, c'est ceux-là qui risquent, parce que moi, je pense qu'il y a des choses à faire, mais qui risquent d'être sacrifiés. Vous voyez,
Mais est-ce qu'il fallait confiner à ce point-là aussi longtemps ? Alors, c'est facile de refaire l'histoire, mais sur le plan, parce que sur le plan économique, c'est une catastrophe.
Je vais vous dire, je pense que notre équipe dirigeante a fait ce qu'il fallait faire. On n'était pas très bien préparés, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas. L'histoire des masques, ouais. Ils n'y peuvent rien. Donc, c'est pas. Je trouve qu'ils ont bien réagi, ils ont bien réagi économiquement. Maintenant, il y a quand même un tout petit effet anesthésiant dans le chômage partiel. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on se remette au travail. Ça ne peut pas dire gagner moins ou travailler plus. Ça veut simplement dire qu'on le reprenne. Je pense aussi que tout ne se réglera pas par le télétravail. Tout ne se réglera pas par le décal. Il faut reprendre l'activité le plus vite possible. Et surtout, je prends une illustration. Pour une partie des jeunes qui vont se retrouver en réalité en dehors du marché du travail, c'est dans 2 mois, ça. C'est pas dans 10 ans. Il faut imaginer des dispositifs de poursuite de formation rémunérés. Ouais. C'est-à-dire, au fond, une sorte d'apprentissage généralisé. Ce qui a été fait sur l'apprentissage, c'est pas mal, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin.
Oui. Est-ce que Olivier Garnier, donc le chef économiste de la Banque de France, a été ce matin sur notre antenne, il disait que le chômage partiel n'a fait que retarder l'ajustement sur l'emploi induit par la crise. Comment sortons de ce chômage partiel ?
Écoutez, je pense...
Qu'on appelle le chômage partiel de longue durée,
L'idée de base, c'est que, au fond, quoi qu'il arrive, il l'a bien expliqué, il y a un choc qui nous fait perdre. Vous voyez, vous étiez à un point déterminé à la fin de 2019, et vous essayez de rejoindre ce point de 2019. Et vous essayez de le rejoindre sans qu'il y ait de drames sociaux, parce que si vous mettez trop de gens, il y a trop de difficultés sur le marché du travail, ça finit par créer des tensions terribles. Et il a parfaitement raison, Olivier, de dire, on va essayer de lisser cette difficulté qui existe. Le fait existe, c'est-à-dire qu'on peut pas le faire disparaître. Il y a eu une baisse de production, il faut ramener cette production. Rajoutons que toute une partie des choses que nous allons faire va quand même ne pas créer tellement d'emplois, parce qu'on va essayer de rendre notre dispositif plus compétitif, donc ça veut dire plutôt de la robotisation. On dit qu'on va ramener des activités en France, mais il faut... Et moi, je le souhaite, j'en suis... Mais on va les ramener sans tellement d'emplois, ça va. Donc, tout ça, c'est compliqué, et donc, il a raison de dire, on lisse sur le temps une difficulté, c'est-à-dire qu'on fait que cette période qui va quand même faire des sacrifiés, quoi qu'il arrive, des gens qui vont être au chômage, moi je veux dire, je suis très solidaire de ces gens-là, on va essayer de faire que, au fond, ils soient pris en charge, qu'on les forme, qu'on leur permette de revenir dans les conditions les meilleures. Ce que je crois, c'est qu'il y a un petit risque, il faut bien prendre en compte le fait que le monde d'après ne doit pas être un monde anesthésié, il faut qu'on continue à reprendre en main nos vies. C'est pas si facile que ça. Ouais. Et le déconfinement, sur tous les plans, était un aspect psychologique compliqué.
Jean-Hervé Lorenzi, présentation du troisième projet de loi de finances rectificative. On en aura sans doute une quatrième.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, et c'est souhaitable d'ailleurs. C'est souhaitable. Les chiffres qui sont donnés, en gros, de sortie à 250 milliards d'euros de plus, ce sont des chiffres qui sont réalistes. Et comme il y a un débat qui est un débat assez faible sur le plan académique aussi, c'est-à-dire on annule, etc. En réalité, tout ce qui est aujourd'hui pris en charge, les dettes qui sont prises en charge par la Banque Centrale Européenne ne sont pas annulées, ça rentre dans le bilan de la Banque Centrale Européenne, mais de fait, ça ne nous coûte pas, puisque ce que nous payons en intérêt, c'est nous est reversé en dividendes de la Banque Centrale Européenne.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, puis de manière, toutes les solutions, on les trouvera le 4 et 5 juillet, ça sera excellent. scène donc les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui du coup vont se passer à Radio France, mais vous reviendrez nous en parler, on en parlera de ça pour nous expliquer un peu qu'est-ce que vous attendez.
On va lancer le débat parce qu'il faut que les Français s'expriment sur ce qu'ils veulent et c'est très important.
Ce qu'ils veulent et puis peut-être ce monde demain, comment ils le dessinent, hein. Je pense que c'est important. Exactement. Rendez-vous est pris d'ici une dizaine de jours. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Dans un instant, c'est un autre prof, il est historien, économiste, il publie, vous savez, c'est la Bible des matières premières. Philippe Chalmin est avec nous pour son Cyclope.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Puis c'est un des meilleurs spécialistes sur l'évolution des matières premières. Il publie sa Bible de plus en plus lourde, Le Cyclope. Philippe Chalmin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, historien, donc je disais économiste, prof à Dauphine, et donc le président fondateur de Cyclope, 34e édition, où en fait vous passez en revue toutes les matières premières. Vous avez même un indice sur les 34 matières premières. Et là, c'est une édition un peu particulière. Vous avez quasiment dû tout réécrire parce que tout a changé depuis le début du mois de mars. Hein.
Absolument. En fait, on n'a pas changé. En ce sens que dans le Cyclope 2020 de cette année, qui fait pratiquement un millier de pages, il y a le Cyclope tel que nous l'aurions fait, c'est-à-dire celui que l'on prévoyait début janvier, lorsque le monde devait croître à 3%, etc. Et puis, on a rajouté une centaine de pages en introduction qui sont arrêtées à la mi-mai, un premier bilan de ces 4 mois et de ce que nous appelons la crise de 2020. Mais on n'a pas changé non plus. Vous pourrez vous amuser à regarder la couverture qui représente une fresque peinte à Sienne au XIVe siècle par un peintre, Ambrogio Lorenzetti, qui est mort de la peste noire. Et c'est une allégorie du mauvais gouvernement. Eh bien, le mauvais gouvernement, c'était quand même le thème de ce grand désordre du monde qui marquait déjà 2019 et qui nous marque encore aujourd'hui.
Oui, alors si on regarde quand même, l'indice des matières premières que vous avez calculé, il a chuté de 42% entre le 1er mars et le 30 avril.
Entre le 1er janvier et le 30 avril.
Le 1er janvier, 30 avril.
Voilà, oui. 42% sur notre indicateur. Alors évidemment, il faut intégrer le fait qu'il y a le pétrole là-dedans et que le pétrole pèse lourd. Qu'on s'est arrêté au 30 avril, le moment où le pétrole était au plus bas. Vous avez vu qu'il a remonté. Nous sommes aujourd'hui le 9... Le 10 juin.
Oui, 10 juin.
Nous sommes le 10 juin. Notre indicateur est probablement un peu plus élevé. Et en fait, le produit dont le prix a le plus baissé arrêté aujourd'hui, c'est plus le pétrole, mais c'est dans la même famille, c'est le gaz naturel. Ouais. Pour le reste, nous avons des baisses de prix de l'ordre de 10 à 20%, avec quelques hausses d'ailleurs, pour le blé, le riz et l'or, bien entendu. Mais en réalité, ces baisses de prix, elles sont assez légitimes face au choc de demande que nous avons vécu. J'imagine que vous venez d'en parler avec Jean-Hervé. J'étais dans la salle d'attente, je ne pouvais pas entendre. Mais l'OCDE sort du moins 6%, c'est là.
Au niveau mondial.
Au niveau mondial. Non.
France, niveau mondial.
Oui, mais la France dans notre histoire, les marchés ne comptent pas. Mais je vous rappelle que début de l'année, quand on démarre Cyclope, le FMI nous prévoyait, et ça paraissait à peu près normal, plus 3,3. Donc de plus 3,3 à moins 6, ça veut dire un coup d'accordéon de 9% de croissance du PIB. C'est considérable, jamais le monde, là je reprends ma casquette d'historien, c'est là le choc économique le plus important que le monde ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument, c'est ce que sort l'OCDE aussi, avec Laurence Boone demain qui sera sur ce même plateau. On voit bien que c'est la crise la plus importante en temps de paix, en tous les cas, depuis toujours. En temps de paix, je précise.
Alors, disons
en
que.
Alors, attendez,
si on
c'est
veut
pas l'objet,
être...
vous n'êtes pas. Non, l'historien va, pour une fois, laisser la place à l'historien des matières premières. Là, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Le pétrole, vous le voyez comment? Qu'est-ce qui va se passer, là, le pétrole?
Alors, là où vous avez raison, il faut parler du pétrole, parce que à côté de la crise économique provoquée par la crise sanitaire, donc un choc de demande, il y a effectivement un contre-choc énergétique déclenché en réalité avant le Covid, parce que nous étions déjà en situation excédentaire et que ça a été la désunion entre Arabie Saoudite et Russie. Et lorsque le prince Mohammed bin Salman décide le 5 mars de casser tous les accords, ouais, et de déclencher la guerre du pétrole, il le fait au pire des moments, mais c'est à un moment où on n'a pas encore pris
conscience de ce qui se passait,
de l'ampleur des dégâts. Ouais. Alors depuis, nous sommes remontés, on est au-dessus de $40 le baril.
Et qu'est-ce qui va se passer là ?
Ce qui va se passer, c'est que je crains quand même qu'un petit vent de désunion recommence à souffler entre des intérêts qui sont quand même manifestement divergents. Et j'aurais tendance à penser quand même, on va avoir une certaine reprise de la demande, que d'ici la fin de l'année, on va rester base baril de Brent entre $30 et $40, sauf accident politique, géopolitique majeur. Mais je vous rappelle que les accidents géopolitiques, ouais, ils sont passés un peu au second plan, puisque nous sommes dans une
c'est
situation
clair, si
pareille.
Là, on est dans une situation où on va voir que, quand même, entre la Chine et les États-Unis, ça s'est incroyablement tendu avec cette crise.
Oui, mais donc, à la limite, Chine-États-Unis, c'est relativement neutre sur l'affaire du pétrole.
Oui, bien sûr, hein. Non, mais c'est
là,
un plan
c'est
économique,
c'est
je
le
dire,
seul
en fait, c'est
point. Alors, sur le ça, plan économique, je l'entends bien, oui, mais finalement, la Chine joue un rôle essentiel pratiquement à toutes les pages de Cyclope, sauf dans le champ énergétique.
Je sais bien, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir aussi que ça va créer des tensions extrêmement fortes, et notamment sur d'autres formes de matières premières. Un mot sur le gaz naturel. Pourquoi le gaz naturel est celui qui a profité quelque part de cette
crise ?
Au contraire.
Non. Simplement.
Qui a profité dans un premier temps, et après, effectivement, il s'est effondré.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la logique des fondamentaux. Mmh. Nous avons eu une vague d'investissement très important,
oui,
dans le domaine du gaz naturel,
oui, que
ce soit au Qatar, que ce soit en Australie, devenu le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, oui, que ce soit bien entendu aux États-Unis, et la demande n'a pas suivi. Et ça, c'est une des bonnes conséquences de cette crise, car aujourd'hui, le gaz naturel est à un prix tellement bas que enfin il devient compétitif dans un certain nombre de pays face au charbon. Et donc, autant la crise va avoir des conséquences peut-être un peu négatives pour un certain nombre d'énergies renouvelables qui vont avoir du mal à passer face au pétrole, et on a vu l'effondrement en particulier du maïs et du sucre lié à la crise de l'éthanol. Par contre, c'est clair, la chute des prix du gaz naturel fait que pour de très nombreux pays importateurs, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, il devient intéressant de bazarder, s'ils le peuvent, leurs vieilles centrales thermiques au charbon et de passer à des centrales thermiques à gaz, ce qui est quand même toujours
une bonne
un peu
nouvelle,
polluant,
ouais,
mais
ouais,
moins polluant.
Bien sûr. Il y a une la grande exception, non, il y en a peut-être d'autres, en peut-être des plus petites matières premières, mais c'est l'or. L'or, quand même, alors là, c'est le...
Mais c'est la relique barbare. Quand ça bouge, quand vous avez des craintes, le prix de l'or remonte. Je ne suis pas très optimiste sur l'or pour une autre raison qui va vous amuser peut-être. Un des grands consommateurs d'or, c'est l'Inde.
Ouais.
Et l'Inde en particulier, lorsqu'il y a la mousson, et une bonne mousson, c'est une belle saison des mariages. Je ne sais pas quelle sera l'état de la mousson. Par contre, ce que je sais, c'est que le Covid, les mesures de confinement extrêmement strictes prises par le gouvernement Modi, vont plonger l'Inde dans une situation de dépression économique qui risque de modifier quand même la situation sur les importations d'or indiennes.
Je mettrai un petit bémol, c'est que la situation économique est telle, comme vous venez de le dire, Philippe Schulman, c'est qu'en même temps, les Indiens ne respectent pas tellement le confinement parce qu'eux, ils n'ont pas le chômage partiel, ils n'ont pas toutes les aides
qu'on a. Quand même, mais ils n'auront peut-être pas les moyens de se payer des mariages et de financer la dot de la mariée. C'est ça, l'or, c'est la dot des mariés.
C'est la dot de la mariée, comme quoi ça... Qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, parce que c'est les marchés mondiaux 2020, s'il faut retenir trois éléments, ça serait quoi ?
Un contre-choc énergétique. Pas de crise alimentaire. Pas de crise agricole et alimentaire. Contrairement à tout ce qu'on a dit sur ces trois derniers mois, il n'y a pas eu de crise agricole et alimentaire. Et pour le reste, des marchés qui n'attendent pas Godot, mais qui attendent la Chine.
Et
ça veut dire qu'un certain nombre de marchés ont déjà quasiment préempté la reprise économique chinoise. Vous avez un symbole ces derniers jours, le minerai de fer, qui est revenu non seulement au-dessus de ses niveaux d'avant Covid, mais qui même, il était à 90 dollars la tonne, il est même passé au-dessus de 100 dollars la tonne. C'est très important quand vous savez que la Chine est importatrice de pratiquement, enfin le commerce mondial du minerai de fer, c'est à 2/3 des importations chinoises.
Ouais. Quelles sont les terres rares, mais les matières premières rares qui vont devenir de plus en plus, parce qu'on le sait qu'avec la fabrication de nos chers smartphones, etc., c'est le pas le lithium, c'est le quoi?
Alors non, c'est sur les batteries, ouais. les batteries automobiles. Ouais. Votre scooter électrique, ouais. cher Edwige, ouais. ou peut-être autre chose, ouais. Il y a une batterie où il y a du cobalt, il y a du lithium, il y aura un peu de nickel aussi. On a créé d'ailleurs...
chercher un autre, c'est pour ça que
on a créé un chapitre dans Cyclope sur les métaux électriques. Alors eux, ils ont traversé la crise, je dirais, ils ont connu un petit coup de déprime et de baisse de la demande comme les autres. Il y a une chose dont il faut tenir compte aussi, c'est qu'un certain nombre de producteurs miniers en particulier ont été handicapés par le confinement, par le Covid. Ça a été le cas du cobalt en République démocratique du Congo, ça a été le cas des platinoïdes en Afrique du Sud. Il y a un métal qui aura traversé la crise pas mal, c'est le palladium. Et voilà. Le palladium, je vous rappelle, c'est dans les pots catalytiques de vos véhicules à essence, alors que le platine qui sert pour les véhicules diesel, lui, est dans le marasme le plus complet.
Est-ce qu'il y aura, peut-être en conclusion, Philippe Chama, un monde d'après, par rapport à tout ce que vous venez d'écrire? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de révolution dans les matières premières ou pas?
Alors, autant je crois au monde d'après, et pour moi, 2020, ça va être un retournement dans l'histoire économique identique à la Grande Dépression et identique aux années 70. Sur les marchés de matières premières, la réponse est non. Sur les marchés de matières premières, je pense qu'on va reprendre la tendance que nous avions jusque-là et qu'on anticipait d'ailleurs avant le Covid, c'est-à-dire une lente poursuite de la baisse des prix parce qu'on va retrouver des situations excédentaires. Sauf, bien entendu, et je parle toujours, catastrophe climatique, géopolitique et sanitaire. En ayant ouvert ces parapluies, je dirais que nous restons alors dans un dernier domaine qui est le fait, et c'est un petit peu le thème de Cyclope, le mauvais gouvernement. Nous n'avons plus personne au niveau multilatéral. L'OMC est mort, les COP sont mortes, et ça, c'est probablement quelque chose d'assez dramatique.
Ouais, ça, c'est sûr qu'il faut revoir la gouvernance mondiale. Merci beaucoup, Philippe Chelmin. Donc, les marchés mondiaux, magnifique couverture, vous l'avez dit, du 14e siècle. Et puis, c'est la Bible, la référence, comme depuis 34 ans. Merci beaucoup, Philippe Chelmin, d'avoir été avec nous dans un instant. C'est l'homme clé de l'industrie aéronautique, Éric Trappier, le président du GIFAS et président d'Asso Aviation, est notre invité dans le RH.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il est un peu le patron de toute la filière aéronautique, du secteur aéronautique, Éric Trappier, le président du GIFAS. Merci d'être avec nous, Éric Trappier. J'imagine que vous êtes vraiment sur le front en ce moment. Et en plus, vous êtes président de l'Asso Aviation. Ce plan qui a été donc présenté hier par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, de 15 milliards d'euros, est-ce qu'il est... suffisant? Est-ce qu'il n'est pas trop ambitieux, notamment sur la question de l'avion zéro carbone dès 2035? Et surtout, est-ce qu'il répond à un besoin urgentissime qui est de maintenir, de soutenir la filière aéronautique et toutes les PME? On sait qu'il y a quand même 300 000 personnes dans le secteur du GIFAS.
La situation exceptionnelle, la crise exceptionnelle, il fallait absolument un plan. On a réagi très vite au sein de la filière. Donc, vous savez, la filière, c'est les quatre grands donneurs d'ordre que vous citez.
Big Four.
Airbus, Safran, Thales et Dassault. Mais c'est aussi l'ensemble des équipementiers et tous les petites PME qui sont réparties sur le territoire. En réalité, elles sont beaucoup dans les régions. Donc, il fallait réagir vite car cette crise touche le trafic aérien et a stoppé complètement les livraisons. Il fallait donc être capable de soutenir ces PME. Les premières mesures immédiates, elles ont été prises par le gouvernement. Chômage partiel, ça c'était très bien. Aide à la trésorerie avec des prêts garantis par l'État qui ont permis immédiatement aux PME de passer ce premier cap difficile. Et la deuxième volet, c'était absolument d'aider nos PME, notre supply chain, et c'est ce plan d'hier qui a été bâti avec l'État, avec Bruno Le Maire en particulier, mais aussi avec Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebari pour la partie futuriste. En réalité, on fait du présent, on fait du présent à 1 ou 2 ans, parce que la crise va durer 1 ou 2 ans, mais on garde aussi l'œil sur l'horizon. Et l'œil sur l'horizon, c'est de travailler avec les bureaux d'études sur des avions décarbonés et plus numériques, puisque l'optimisation des trajectoires, par exemple, ira dans la réduction du carbone dans l'émission des avions.
Mais on sait que les discussions ont été assez tendues avec le gouvernement, avec Bercy. Justement, certains disent on aurait pu aller un peu plus loin. Parce que, donc, comme je le disais, il y a quand même sur les 15 milliards, il y a 7 milliards pour Air France, il n'y a finalement que 8 milliards pour l'industrie aéronautique française.
Dans toute négociation, il y a ceux qui veulent plus et il y a ceux qui veulent vous donner moins. Donc on a abouti à ce résultat. Je pense que la profession est satisfaite par ce résultat. Ça ne veut pas dire que la crise est derrière nous. Nous sommes en pleine reprise du travail sur site. Le télétravail se poursuit. Et on a déjà l'œil sur ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent. Donc cette crise va être forte. Ce plan permet de limiter le désastre qui pouvait advenir s'il n'y avait pas eu de plan. Donc c'est un vrai plan qui nous va en ce qui concerne l'ensemble de la profession.
Mais en quoi, dans ce plan, pouvez-vous trouver les outils pour éviter le dépôt de bilan? Parce que c'est comme ça, enfin, les difficultés de toutes les myriades de PME, de TPE, mais aussi de PME dans ce secteur. On voit ce qui se passe pour de Richebourg, mais pour d'autres aussi.
Deux choses. Il faudra poursuivre le chômage partiel. Vous savez qu'on le demande. C'est dans l'escarcelle de la ministre
Péricot.
Donc on discute, on attend les résultats. Mais ça, c'est important. Pour la profession, on voudrait au moins 2 ans, parce que c'est à peu près le temps pour se remettre d'aplomb. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un fonds. Ce fonds, les 4 grands donneurs d'or, les 4 Big Four, mettent de l'argent, à peu près 200 millions d'euros, et l'État met 200 millions d'euros. À partir de ces 200 plus 200, nous allons lever des capitaux privés pour arriver à être capable de dégager à peu près 1 milliard qui nous servira non seulement à éviter les faillites de certaines entreprises, peut-être à les aider à se moderniser aussi, parce qu'il faut qu'en sortie de crise, notre supply chain soit encore plus forte. Il faut qu'elle soit compétitive. Et c'est pour ça qu'il y a eu une ligne dans le plan qui est par exemple le numérique. Il faut absolument qu'on accélère la transformation numérique de notre supply chain et des Big Four.
Mais en même temps, et du reste, il le disait, je pense que c'est la même chose pour vous, Philippe Petit-Collin de Safran, il disait qu'il n'y a eu aucune commande là, ni au mois d'avril, ni au mois de mai. Et donc on voyait aussi des reportages dans des usines de PME, de filières aéronautiques, où il n'y a personne, il n'y a rien, ça ne tourne plus puisqu'il n'y a plus de commandes.
Oui, la crise est là. Le trafic aérien est stoppé. Alors, on attend, évidemment, et on travaille beaucoup avec Jean-Baptiste Djebari sur le côté réouverture du trafic aérien, réouverture des frontières, déjà en Europe, réouverture des frontières dans le monde. On voit déjà qu'en Asie, ça commence à se faire. C'est pas tout à fait arrêté dans d'autres parties du monde. C'est évidemment le retour, entre guillemets, à une certaine normalité qui va prendre du temps dans le trafic aérien. Il y a eu des annulations de commandes, mais il y a beaucoup de commandes qui ont été décalées, mais qui ne sont pas annulées. Donc, normalement, ça va revenir. Comme je vous le disais, ce n'est pas l'affaire de 2 semaines, c'est l'affaire de 2 ans.
Lorsqu'il a présenté ce plan, Bruno Le Maire, il a dit qu'il voulait faire de l'aéronautique française le leader mondial du transport aérien décarboné et la transition énergétique. Est-ce que on est un peu pour faire passer ce plan?
Je crois pas qu'on soit dans la communication, même si on fait de la communication. Je crois qu'il y a une vraie volonté française sur cette aviation plus verte.
Mais est-ce que c'est crédible? Vous êtes un industriel.
C'est aussi la volonté de l'Europe avec le Green Deal. Et nous avons mis sur la table, on a renforcé des travaux qu'on a déjà débutés il y a un an, renforcé ces propositions vers le gouvernement pour aller vers des avions décarbonés de type avion hydrogène. Oui, c'est crédible, c'est très ambitieux, c'est-à-dire que quelque part, si vous ne faites pas un saut technologique, une rupture technologique, si vous n'essayez pas, et nous proposons des démonstrateurs, puisque le démonstrateur, vous savez, j'en parle beaucoup dans la défense, c'est ce qui vous permet de vérifier que votre technologie, elle va marcher, elle va pouvoir s'appliquer. Nous avons besoin de ces aides gouvernementales, puisqu'en ce moment, on ne peut pas investir, ou moins, et donc, il était très important que le gouvernement se mobilise justement pour allier à la fois la difficulté du transport aérien, la difficulté des sociétés à prévoir le futur et à remplir le besoin sur le Green Deal et donc à faire une aviation plus verte pour ramener les gens dans les avions aussi.
Alors, en même temps, il y a un peu de son de cloche, enfin, même s'ils ne sont pas complètement contradictoires. Mais vous avez Guillaume Faury d'Airbus qui dit oui, c'est possible, cet avion vert décarboné en 2035. Et puis ce matin, Philippe Petit-Collin qui dit c'est quand même assez compliqué. Nous, on était plutôt sur 2050, donc Safran fabrique les moteurs. Vous êtes où, Éric Trappier ?
Moi, je l'ai dit déjà dans ma déclaration hier, en président du GIFAS. Je le dis, c'est un défi très fort, mais c'est faisable. Voilà ce que je dis. Mais encore une fois, pour arriver à 2035, il va falloir passer des étapes. C'est ces étapes qui sont importantes. Dans toute
culture
technologique, il faut que les ingénieurs trouvent. Donc les étapes, c'est d'abord toutes les études qui ont déjà démarré et qui vont être renforcées grâce à ce plan d'aide. Et puis, c'est le lancement de démonstrateurs avec, je l'espère, l'Europe qui va abonder ce plan. La France prend
un nouveau
leadership.
Plan où ça rentrera dans
non,
le plan de relance.
C'est grâce au plan de relance de l'Europe.
Il y a 30 milliards à peu près pour
les autres pays européens pourront venir et apporter, puisque c'est aussi une des ambitions de l'environnement de l'Europe, de venir abonder ce plan français. Mais enfin, la France a toujours été très leader dans le domaine aéronautique. Il était normal qu'elle se mobilise. L'Europe va pouvoir abonder et va pouvoir remplir ces conditions qui nous permettront de progresser vers cet avion décarboné. La certitude d'arriver en 2035, si on en était sûr, on aurait déjà développé les avions. Le but, c'est déjà de maîtriser les technologies et donc de faire de la technologie. Les ingénieurs doivent se gratter la tête, doivent travailler. Le problème à cause de cette crise du Covid, c'était peut-être que les ingénieurs, ils n'avaient plus de travail. Grâce à ça, ils vont pouvoir continuer à travailler parce que les sociétés qui ne peuvent pas investir vont être aidées pour continuer à faire cet effort pour aller dans la recherche.
Ouais, c'est QFD, j'ai envie de dire. Un Rafale vert avec fonctionnant à l'hydrogène, c'est pour quand ?
C'est un Rafale Kaki d'abord, c'est des besoins
non,
militaires.
Parce que maintenant tout est peint en vert. Pas, vous savez, non, alors, non. Le vert, c'est un vert Kaki.
Voilà, hein, vert Kaki. Voilà, ouais. Non, le Rafale et les avions de combat et un certain nombre de domaines dans le domaine de la défense, c'est d'abord la performance qui compte. Donc,
pour un avion civil aussi, si je puis me permettre.
Non, parce qu'un avion de combat, c'est la discrétion qui va jouer, c'est sa capacité à emporter des armes, c'est un autre domaine dans lequel le but n'est pas forcément de consommer moins, puisque le but, c'est d'aller plus haut, plus vite, et d'être meilleur que l'avion de combat qui est en face de vous.
Oui, donc ce n'est pas pour tout de suite qu'un avion de combat fonctionne à l'hydrogène.
Non, et je vous rassure, je n'ai aucun de mes ingénieurs qui travaille à faire un avion de combat à hydrogène. Par contre,
vous me rassurez, non, parce qu'au contraire, je croyais que c'était le nouvel...
Mes ingénieurs travaillent à faire un Falcon à
base d'hydrogène. Attends, Éric Trappier, là, vous me tendez une perche, parce que vous dites, je vous rassure, personne ne travaille là-dessus. En même temps, je ne sais pas, on explique que ce plan aéronautique, c'est justement pour qu'il devienne...
Ouais. Civil.
Donc
civil.
Ça veut dire que vous n'y croyez pas beaucoup, quand même.
Non, civil, non, on y croit beaucoup dans le civil.
Alors les avions d'affaires.
Avions d'affaires, oui. Ouais. On y travaille et on s'est d'ailleurs mis avec Airbus parce que l'effort de recherche va être tellement important qu'il faut que l'ensemble des bureaux d'études travaillent la main dans la main pour arriver à relever ce défi.
Justement, à votre avis, c'est un budget de combien pour travailler en termes de R&D, hein, de recherche et de développement ?
Bah écoutez, aujourd'hui, il y a déjà 1,5 milliard qui a été mis sur la table avec un flux de 600 millions par an à partir de 2021, donc ce sont des sommes déjà assez importantes. Ça donne l'idée que ce flux va se poursuivre. N'oubliez pas, ça c'est l'aide publique, mais les sociétés, quand elles vont développer des avions sur le marché commercial, elles vont aussi mettre de l'argent pour développer. Donc,
oui, mais en même temps, on voit bien que ça soit Airbus, que ça soit Safran et vous peut-être aussi chez Dassault, tout le monde coupe dans ses budgets de recherche et développement aujourd'hui.
Mais on est sur un plan à 15 ans, puisque 2035, on est en 2020. Dans un plan à 15 ans, on espère quand même que le marché va revenir, je vous le disais tout à l'heure, dans 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les efforts sont faits par les États, c'est par la Commission européenne, et évidemment, les compagnies vont racheter des avions et les sociétés vont réinvestir pour faire des avions, justement, qui seront décarbonés.
Éric Trappier, vous pensez que il y a les chiffres de l'IATA que vous connaissez, donc avec 84 milliards de dollars de pertes nettes pour l'exercice 2020, que 15 milliards l'année d'après. Il faudra combien de temps à votre secteur, puisque vous présidez le GIFAS, pour se remettre de cette crise qu'on a traversée, qu'on traverse en ce moment?
Notre première estimation, mais il faut être très prudent, puisqu'on n'est qu'au tout début de cette crise, en réalité, on est peut-être sur la fin, je l'espère, de la crise sanitaire, mais même si elle n'est pas finie, mais on est au tout début des impacts économiques. Donc tout dépendra aussi de comment la relance économique se passe, non seulement en France, mais surtout en Europe, mais surtout aussi aux États-Unis et en Asie. Mmh. Si la relance est globalisée, les gens auront besoin de revoyager, les gens auront besoin d'aller aller voir leurs clients, leurs fournisseurs, etc. Donc ça repartira. On estime aujourd'hui le retour à une certaine normalité au bout de 2 ans.
Deux ans, donc, ça veut dire
2022. Bah, je ne peux pas vous dire le jour précis, ni l'heure précise à laquelle ça sera revenu.
Non, enfin, deuxième, fin du premier semestre.
On espère sur un retour à la normale du trafic aérien dans deux ans. Donc, ouais. C'est une période assez longue. Par contre, l'arrêt a été très brutal. C'est
ouais. Au niveau du GIFAS, justement, vous avez quelques chiffres en termes de perte d'emploi, de chômage partiel, l'ensemble du groupement, donc des industries
aéronautiques. On n'a pas, parce que chaque société est en train de faire ses comptes. Ouais. On est qu'à la tout début... De la fin de la crise sanitaire, comme je le disais. Pour l'instant, la priorité, c'était de ramener les salariés en sécurité au travail sur les sites. C'est vrai, non seulement de la production, mais du secteur tertiaire.
Et ça reprend.
Ça a repris déjà
à
beaucoup.
À hauteur de combien?
Pour l'instant, on est passé à plus de 50% sur site, sachant qu'il y a encore beaucoup de télétravail, puisque le gouvernement a préconisé de garder beaucoup le télétravail. Dans tous les cas, on conservera le télétravail. C'est une nouveauté, mais on va l'intégrer beaucoup plus profondément. Mais on est à plus de 80% d'activité entre le télétravail et les gens qui sont revenus sur site. Le mois de juin va voir, avec le déconfinement qui a vraiment débuté, voir revenir l'ensemble des salariés sur le site de travail. Donc sur l'emploi, la vraie problématique, c'est certain, l'outil industriel est surdimensionné aujourd'hui compte tenu de la réalité. Les mesures actuelles, et c'est pour ça que le chômage partiel est important, c'est d'essayer de préserver les emplois qui permettront le redémarrage quand le marché redémarrera.
Oui, mais enfin, un chômage partiel pendant deux ans, vous voyez que, un, c'est très difficile pour le salarié, et deux, il y a une perte forcément un petit peu de compétences. Hein, donc, il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que deux ans en télétravail, au chômage partiel chez soi...
Il y a des méthodes. Tout le monde, on ne dit pas. Il y en a qui, pendant deux ans, font rien et d'autres qui travaillent à 100%. Il peut aussi y avoir des adaptations. De ne pas travailler le vendredi. Par exemple, il y en a qui ont fait ça. On est au début. Il faut d'abord qu'on voit comment le marché va repartir. Heureusement aussi, dans le GIFAS, on n'en a pas beaucoup parlé, mais beaucoup de sociétés sont duales. Donc il y a aussi la défense, elle n'est pas touchée en termes de marché. Elle a été touchée par le Covid en termes d'activité immédiate, ouais. Mais en réalité...
Oui, enfin, en même temps, je crois avoir vu, mais évidemment, je parle sous votre contrôle, que les ventes d'armes françaises ont chuté considérablement depuis deux mois.
Le monde s'est arrêté pendant deux mois.
Donc la défense aussi...
Vous avez dû le faire, les automobiles, ça a chuté. Tout le monde est resté chez soi, et à part acheter à manger... n'a rien fait d'autre.
Donc la défense a été touchée malgré tout.
L'activité économique, c'est pour ça que c'est devenu vraiment une priorité. Il faut que l'activité économique reparte complètement et qu'il y ait un plan de relance qui aide à ce retour à une activité économique, entre guillemets, normale.
Florence Parly, la ministre de la Défense, justement, a dit qu'elle laissait entendre qu'il y avait des discussions bientôt ouvertes autour du Rafale.
En réalité, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des discussions déjà en cours et qu'elle a un calendrier... qui n'est pas liée au Covid. Elle a un calendrier qui est lié à la loi de programmation militaire. Et comme l'activité défense, même si elle a été affectée un petit peu par l'arrêt, il y a un peu d'argent au sein de cette loi de programmation militaire qui a pu être dégagé pour aider dans une enveloppe qui est à peu près de 800 millions d'euros. C'est ce qu'elle a déclaré. Mais la réalité pour le Rafale, par exemple, c'est qu'on a des discussions en cours pour une tranche supplémentaire qu'elle-même avait déjà annoncée il y a quelques temps. Donc ces discussions se poursuivent.
Oui, mais donc il n'y aura pas, vous ne réfléchissez pas à un nouveau Rafale?
Ah non, non.
Comme on réfléchit à un nouvel avion civil, on peut se poser la question. Je vous ai posé sur l'hydrogène, mais sans aller jusque-là.
Oui, on a un Rafale qui s'améliore. Je vous rappelle qu'on est en train de penser à un futur avion de combat avec nos partenaires allemands et espagnols, et c'est le futur, mais lui, il n'est pas 2035, il est 2040.
Oui, vous étiez même venu ici, vous en avez félicité.
C'est ce projet SCAF, franco-allemand à la base, et à laquelle les Espagnols ont rejoint, et là-dessus, on est en train de travailler, on a une première étape.
Et vous êtes pilote, changez de casquette. Hein,
on a un démonstrateur aussi qui devrait voler en 2025-2026, on travaille dessus, on a eu les premiers contrats, et on s'organise avec nos partenaires allemands, espagnols et l'ensemble des supply chains de ces pays-là. Donc ça c'est aussi déjà lancé. Ça a été un peu freiné par la crise du Covid, comme tout le monde, mais on a quand même continué à travailler en télétravail.
Donc il n'y a pas de retard sur le programme?
Non, il y a un retard immédiat de quelques semaines parce qu'il y a eu un arrêt, mais c'est rattrapable.
Ouais. Juste dernière petite question là sur le Rafale. la dernière tranche ou la cinquième tranche en Inde de commande de Rafale. Pour l'instant, c'est enterré, j'imagine.
Alors, rien n'est jamais enterré. Ceci dit, la crise du Covid fait peser sur le secteur, et là, je parle au nom du GIFAS, des craintes sur l'export, parce qu'il y a un arrêt mondial. Donc, c'est sûr que les achats d'avions de combat ou d'hélicoptères ou d'A400M ou d'A330, ça ralentit un petit peu. Donc, il va falloir, là aussi, reprendre le chemin de l'exportation pour favoriser les produits français à l'export. C'est vital dans l'équilibre global de la profession.
Oui, donc, et ça, vous voyez reprendre ça quand ?
Bah maintenant, il faut que la reprise maintenant, nous sommes en juin, a priori on va pouvoir revoyager, dès que les frontières vont se réouvrir, on repartira. Aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est les frontières.
Alors,
on a le téléphone, on a etc. Mais on a conservé par exemple une équipe indienne à Bordeaux qui a continué à prendre livraison de ses avions. Et on va envoyer ces avions-là cet été en Inde. Donc, l'activité se poursuit dans ces domaines.
Il y a un sujet qu'on sent extrêmement sensible, mais qui émerge malgré tout, c'est l'appétit, on va dire ça comme ça, notamment de certains investisseurs internationaux, notamment des Chinois, pour tout ce qui est, pour toutes les PME, les compétences de la filière aéronautique française. Pour le président du GIFAS, il y a vraiment alerte ou pas, ou c'est plus un fantasme?
Une partie des sociétés françaises sont détenues par des capitaux étrangers. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut des capitaux, y compris en France, pour être capable de rentrer dans les sociétés et être capable de les sécuriser. Il faut que les États ou l'Europe définissent ce que sont les sociétés stratégiques et s'assurent que quand des technologies clés sont en jeu, peut-être qu'un certain nombre de capitaux majoritaires doivent être soit français, soit européens. Mm-hmm. C'est pas facile parce qu'on est quand même dans une économie de marché, mais il y a des mécanismes qui le permettent. Les États-Unis,
vous
les rois
quoi,
du capitalisme, ils ont le CFIUS, qui est la méthode qui permet de protéger leurs sociétés stratégiques. Donc on va vers ces solutions-là. Encore faut-il être capable de mettre les fonds. Et donc ces fonds, il faut les avoir.
Le CFIUS, ça fonctionne comment pour les gens ignares comme moi?
Alors, ça veut dire que si, par exemple, je suis français et que je veux acheter une société américaine, je passe au travers un organisme qui vérifie mes intentions. D'accord. Et qui vérifie que je ne vais pas remplacer un certain nombre de gens qui travaillent dans des domaines sensibles par des Français, et ils doivent être américains avec des habilitations. Il y a toute une procédure à suivre.
Mais Éric Trappier, est-ce que vous avez été saisi d'achats potentiels de sociétés par des Chinois, pour appeler un chat un chat?
On sait que ça existe. Saisi, non, directement. Le fonds aussi qu'on est en train de mettre en place peut aider aussi à recapitaliser certaines petites sociétés pour éviter que, justement, ces fonds puissent venir les acheter. Bon, c'est un sujet délicat parce qu'on ne peut pas demander à des fonds français de racheter toute l'aéronautique, toute l'automobile, toute l'énergie. Simplement, il faut mettre en place les bons mécanismes pour s'assurer que le savoir-faire français va partir gratuitement dans un certain nombre de pays qui veulent nous copier.
Il faut s'attendre, peut-être en conclusion, Éric Trappier, est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de suppressions de postes dans votre filière, dans la filière aéronautique?
Pour le réduire.
Oui, je sais. Oui.
On fait tout pour l'optimiser,
pour
l'instant, le réduire.
Pour l'instant, il y a de suppressions de postes.
Pour l'instant, n'ont pas été prises. Chacun est en train de faire ses comptes. Chacun est en train de regarder son niveau d'activité, son espoir de niveau d'activité dans 2 ans. Mais on peut craindre quand même qu'il y ait des suppressions d'emplois dans un certain nombre de secteurs, dont le nôtre. On fera tout pour éviter que ce soit des licenciements secs. Il y aura peut-être des plans d'aide à partir petit peu en avance de phase. On fera tout pour l'éviter. Ouais. Mais
chez Dassault, par exemple, chez Dassault Aviation.
Bah écoutez, chez Dassault, on est en train de faire le point entre activités défense et les activités civiles. J'ai déjà dit au marché que je parlerai au mois de juillet. Donc avant juillet, je serai.
Mais il y aura des suppressions de postes.
Dans mes livres, il y aura peut-être des suppressions de postes.
Oui, d'accord, ok. Parce que notamment, l'aviation d'affaires aussi, ça devait être difficile.
L'aviation d'affaires baisse, elle baisse à peu près de 25%.
Ouais.
Donc il faut qu'on regarde aussi du côté du Rafale, le Rafale permet de compenser. Et c'est entre ces deux activités. Vous savez qu'on a des nouveaux produits aussi qu'on est en train de développer dans le domaine du Falcon. Il faut voir si les ventes partent ou si elles ne partent pas. C'est un tout petit peu tôt pour statuer aujourd'hui.
Eh bien, rendez-vous est pris en mois de juillet. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je viendrai en tant que patron de Dassault Aviation. Merci beaucoup, Éric Trappier, d'avoir été ici, j'imagine, quand même très, très sollicité avec, à l'occasion de ce plan pour essayer de temporiser la crise et son impact dans la filière aéronautique. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve, bien sûr, demain matin, 8h15, c'est Amélie Montchalin, la ministre des Affaires européennes. On parlera justement de ce plan relance européen où déjà, ça commence à chauffer entre les différents pays, comme d'habitude, vous me direz. Bonne journée.